C'est la seconde partie de ce journal. Le dossier de ce jour nous emmène à Goma, où se retrouvent depuis mardi une soixantaine d'acteurs venus du Nord et du Sud Kivu, de l'Ituri, de Kinshasa, pour évaluer l'acte d'engagement qui a sanctionné, il y a 10 ans de cela, la conférence sur la paix et le développement. Bernardin Nyangi.
L'acte d'engagement signé le 23 janvier 2008 annonçait la cessation immédiate des hostilités, particulièrement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le document portait les signatures des délégués du gouvernement, ceux des groupes armés, des autorités locales, de la société civile, des représentants des Nations Unies, de l'Union Européenne, des États-Unis, etc. Seulement, 10 ans après, la situation s'est empirée, déplore Maître Omar Kavota, membre de la société civile et un des participants à ce forum.
Lorsque cet acte d'engagement a été signé, il se comptait une trentaine de groupes armés à province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mais à ce jour, ceux qui suivent de près parlent d'une centaine de groupes armés. Aujourd'hui, l'espace de fluence de ces groupes armés s'est étendu. La situation est trouble non seulement dans le Nord et dans le Sud Kivu, mais aussi en Ituri et dans les Tanganyika.
Comme on le sait, immédiatement après cette conférence, le programme Amani a été créé pour accompagner le processus de paix. Un an après, ce programme sera dissous pour céder la place au programme Starek. Vu que jusque-là, le gouvernement n'a pris aucune initiative pour évaluer les retombées de cet acte d'engagement, la société civile du Nord Kivu s'est proposée de faire le premier pas. C'est ce que dit Thomas Dakemuiti, président de cette structure.
Nous avons dit qu'il faut inviter le gouvernement provincial, les assemblées provinciales du Sud Kivu et du Nord Kivu. Nous sommes avec le gouvernement provincial de l'Ituri. Et donc nous allons analyser le contexte actuel en rapport avec le contexte de 2008 et savoir qu'est-ce qui a avancé et qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite afin que les 4 provinces de l'Est puissent aussi goûter les fruits de la paix et de la sécurité.
Mais Maître Omar Kavota reste sceptique quant à l'impact d'un tel forum, vu l'absence des acteurs clés à cette rencontre.
Ici, nous sommes en train d'évaluer à l'absence des acteurs majeurs. Les groupes armés ne sont pas des nôtres. S'il n'y a pas appropriation de l'autorité de tous ces constats qui sera fait par les acteurs ici présents, il y a risque qu'on n'évolue pas.
Le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, lui, reste ouvert. Il souligne que ce forum est une approche à essayer. Pacifique et Keta ou par.
Parce que ce n'est pas qu'on soit à côté des groupes armés pour qu'on trouve une solution, mais nous devons utiliser les personnes influentes et le leader de certaines communautés qui peut jouer un rôle important. Par contre, on peut décider ça par rapport à l'approche que nous allons prendre au cours de ces assises.
Les organisateurs espèrent produire à l'issue de ce forum un plan d'action sur la sensibilisation pour la paix dans les 4 provinces de l'Est et de la RDC. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
L'essentiel de la presse avec vous, Jean-Désiré Kanyama.
La prospérité titre à la une, député et sénateur en session aujourd'hui, élection 2018, début du dernier virage. La nouvelle session s'ouvre aujourd'hui au Palais du Peuple, à Lingwala, écrit le quotidien de Montfleury. Député et sénateur, quoique leur mandat respectif ait excédé les limites constitutionnelles fixées, ont encore la possibilité de jouer un rôle dans la mise sur pied de l'arsenal juridique nécessaire à l'organisation des élections, poursuit la prospérité. Ils devront normalement se consacrer principalement au cours de cette session à l'examen ainsi qu'à l'adoption de la loi portant répartition des sièges. Élection des gouverneurs du Kwango et du Maniema, la CENI publie la liste définitive des candidats, titre l'avenir à la une. Ce journal reprend le communiqué de la commission électorale nationale indépendante qui a reçu des cours d'appel de Bandundu et de Kindu faisant office de cours administratifs d'appel. Les arrêtés consécutifs au recours en contestation des décisions du 2 mars 2018 de la CENI déclarant respectivement recevables et irrécevables les candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Kwango et du Maniema. Par conséquent, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de ces deux provinces aura lieu le 28 mars 2018, écrit l'avenir. Le Royaume-Uni débloque un montant de 9,2 millions de dollars américains pour soutenir les opérations de la CENI, titre à la une, actualité.cd. L'annonce a été faite par John Mouton, ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, qui précise que cet appui financier n'est assorti d'aucune conditionnalité. Ce montant porte l'appui du Royaume-Uni au processus électoral à 26,3 millions de dollars américains pour la période 2015-2018, rapporte actualité.cd. La nationalité italienne de Moïse Katumbi l'empêche d'être candidat président selon la majorité présidentielle. Titre à la une, politico.cd. Après l'annonce de sa candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018, lors du forum tenu en Afrique du Sud, Moïse Katumbi est accusé d'être porteur d'une double nationalité par la majorité présidentielle, écrit ce média en ligne, qui précise que cette double nationalité le disqualifierait dans la course à la présidentielle. Selon politico.cd, le porte-parole de la majorité présidentielle a fait savoir que Moïse Katumbi est dans l'illégitimité qui l'empêche de constituer une plateforme. Le porte-parole de la majorité a ajouté qu'une entité italienne aurait démontré avec preuve que l'ancien gouverneur du Katanga détient la nationalité italienne, écrit politico.cd.
L'invité.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, David Wesley, qualifie la situation sécuritaire dans le territoire de Djougou de très préoccupante. Hier, il s'est confié au micro de Radio Kapi à Bounia. David Wesley s'entretient avec Isaac Rémeopé.
Vous séjournez à Nitori depuis quelques jours et vous venez d'effectuer une visite en territoire de Djougou. Quelle lecture vous faites de la situation qui prévaut depuis quelques temps à Nitori?
Bon, en fait, la situation est très préoccupante. J'ai eu l'occasion de faire des visites sur le terrain pendant 2 jours, ensemble avec le gouvernement et surtout le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et aussi le ministre des Défenses. Donc, on a vu les chefs localement. On a eu l'occasion de discuter avec eux pour mieux comprendre la situation, mais aussi on a vu de près les actions qui ont été prises sur le terrain par ces groupes armés. C'est très préoccupant pour nous, pour le gouvernement, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire ici pour commencer un retour à la paix. Je crois que le discours qu'on a vu, qui a été donné par le gouvernement, était très important avec les deux communautés. C'était un appel à la paix, c'était aussi un appel pour un dialogue entre eux.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite des autorités sur place?
Ils étaient ici depuis je crois 10 jours en fait. Donc ça c'est une indication de l'importance pour le gouvernement qui voit vraiment que c'est une situation préoccupante. Mais je crois comme résultat, d'abord c'était une meilleure lecture de la situation, une meilleure compréhension de ce qui s'est passé, d'avoir l'occasion de discuter avec les communautés, avec les chefs, d'écouter à leurs doléances. Et avec ça, je crois qu'on peut avoir une stratégie pour voir comment on peut arrêter tous ces incidents très, très graves en fait. Donc, je crois que c'était une bonne première étape, mais il y a des étapes à suivre.
Il semble que les efforts de la MONUSCO ne sont pas encore vraiment palpables, visibles, malgré tous les moyens que dispose la MONUSCO. Donc, on continue à tuer les civils. Comment vous réagissez par rapport à cette opinion?
C'est pas vrai, parce que nous sommes sur le terrain. On a déjà déployé notre force, comme je disais. On va augmenter ça dans la semaine. Nous n'avons que 15 000 effectifs dans tout le pays. Donc, on ne peut pas être partout à la fois. Mais une fois qu'il y a un problème, comme on voit ici dans ce territoire, nous avons la capacité de mobiliser une réponse. On a déjà commencé ça. On a déjà enlevé des troupes de Kisangani qui sont venues déjà ici à Bounia. Ils sont en train de déployer dans cette zone. Et comme je disais, si ça ne suffit pas avec aussi ce qu'on voit avec l'armée congolaise et la police nationale, on peut toujours augmenter ça. Même chose ici, on va renforcer notre bureau, pas seulement sur le côté de notre force, mais sur le côté civil aussi. Aussi pour aider dans ce dialogue qui est hautement nécessaire, je crois, maintenant. On veut vraiment attaquer ce problème, comme je disais, avec en appui au gouvernement dans leurs efforts pour sécuriser cette zone.
Alors pourquoi, malgré les visites et tous les efforts du gouvernement et de la MONUSCO, la situation semble toujours dégénérer sur terrain?
Il y a plusieurs raisons en fait. Ça demande une présence sécuritaire qui conforme aux besoins. Je crois que ça c'est quelque chose que nous, le gouvernement et les autres doivent examiner, de voir exactement ce qu'on doit faire. C'est pas toujours évident qu'est-ce qu'on doit faire pour ça, parce que les villages concernés sont très enclavés. Donc ça c'est un problème déjà, et ça c'est quelque chose à voir comment on peut renforcer un système d'alerte précoce qui peut nous aider d'avoir une réponse plus rapide. Mais c'est difficile et vous voyez les trains, ça prend des heures pour traverser 50 kilomètres. Donc c'est cette question de terrain, le nombre des effectifs que nous avons, qu'on voit avec l'armée congolaise, tout ça parfois empêche une réponse immédiate pour tous les incidents. Mais on apprend et on va adapter notre réponse à propos de la situation sur le terrain.
Il y a une crise de confiance au niveau de la base, surtout la population locale, qui soupçonnerait le gouvernement d'être impliqué dans ces conflits. On dit qu'il y a même des phares de ceux qui sont aperçus aux côtés des assaillants. Cela réduit l'impact des efforts du gouvernement et de la MONUSCO.
De notre côté, nous avons besoin de travailler sur les faits. Donc, nous aurons des équipes sur le terrain qui vont essayer d'établir les faits de la situation. Je dois dire, pour l'instant, on a un très bon rapport avec le gouvernement. Ça marche bien. Et j'ai vu une bonne volonté de traiter cette question et de la traiter rapidement. Donc, je crois qu'on doit continuer de travailler dans cette façon, de trouver ensemble des solutions rapidement. On ne peut pas accepter que cette situation continue comme ça ou que ça se dégrade dans les semaines à venir. Donc, une réponse rapide est demandée maintenant. Et ensemble, on doit rechercher la paix dans cette zone. Et c'est clair pour moi que la population elle-même n'a pas du tout envie d'aller au conflit. C'est très, très clair que la population même veut la paix.
Merci beaucoup.
Merci bien.
Okapi Sport. Nous parlons sport avec vous, Enoch Matondo, bonjour.
Bonjour Babylone Pongo, bonjour à tous les amis sportifs. Coupe Interclub de la CAF Ligue des Champions, le tout puissant Mazembe a pris ses quartiers à Beira au Mozambique, c'était hier après-midi. Partie de Lubumbashi à 13h30 local, la délégation forte de 37 personnes dont 20 joueurs a atterri à 15h30. Mais avant de quitter, les Corbeaux avaient donc eu une très longue séance d'entraînement à son centre, dans leur centre de Futuka, dans la banlieue de Lubumbashi, fort de 4 buts d'avance. Le tout puissant Mazembe est sûr de passer au tour suivant à moins d'une catastrophe. Le match se joue ce samedi. On écoute Pamphile Miyayo, entraîneur des Corbeaux de Lubumbashi.
C'est vrai, on a eu à marquer 4 buts, donc c'est pas encore fini. Là, on va aller jouer comme on a fait, parce que c'est pas Mazembe qui va aller jouer là-bas sous pression. C'est l'équipe de Tongo qui va être sous pression, qui va chercher à venir vite nous attaquer pour pouvoir marquer le plus tôt possible. Donc nous allons jouer ce match-là sans aucune pression.
Le club de son côté qui a un but de retard a remonté face à Difa Hassaniel Djadidi. Ce dimanche se prépare dans son centre de Kimbundo. Son coach principal Florent Ibenge regagne Kinshasa ce jeudi après 3 jours de formation sur la licence CAF Pro, équivalence du Pro UEFA en Europe lancé en février dernier par la Confédération africaine de football. Il est donc de la première promotion avec le Sénégalais Lamine Diaye, l'Égyptien Hassan Cherata, le Sud-Africain Pitso Motimane et le Tunisien Nabil Mahloul. En coupe de la Confédération de la CAF, le Darren Club Motema Pembe a posé aussi ses pénates à Bata. Nous sommes en Guinée équatoriale où il sera reçu ce dimanche par la formation de Desportivo Nifang. Les hommes d'Otis Ngoma devront impérativement gagner pour espérer poursuivre l'aventure après le nul d'un but partout à Kinshasa. Même situation que Maniema Union, l'équipe de Kindo qui s'est préparée à Kinshasa 6 jours durant, s'est rendue hier à Alger, donc avec l'esprit de battre l'USM à domicile à défaut de faire un match nul de 3 buts partout. Dans notre prochaine intervention, nous allons parler des préliminaires de la Coupe du Congo dans la province à Kisangani, la province de la Tchopo, je crois. C'est ça. Donc nous allons reparler de ça dans notre prochaine intervention également, des préliminaires dans la province du Congo central.
Merci Enoch. Jusqu'au hier soir, la Banque centrale du Congo, le dollar américain, s'est acheté à 1584 francs congolais et s'est vendu à 1648,7 francs congolais. Merci à vous qui venez de ce journal. Il a été supervisé par Pelé Kipilamondo Innocent Linga, mis en onde par Mimi Kindou. Excellente journée.